Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine.
Si.
C'est-à-dire ?
Juste devant la grille, s'il te plaît.
Bah, c'est nouveau, ça.
Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comment elle est stylée, notre voiture ?
Eh, comme ta mère.
Démarquez-vous avec style. Grâce à la Toyota EcoCross, à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Toyota.
Toyota EcoCross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande entre les 3 et 18 janvier. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Je vous propose de commencer tout de suite un week-end à l'anglaise en compagnie de Sœur Édouard.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
La scène se passe un soir du mois d'octobre 1898. On est donc dans l'Angleterre victorienne. Edward Elgar est assis au piano et il est en train de tapoter une mélodie qu'il n'a pas l'air tellement d'y penser. Et sa femme, Lady Elgar, lui demande ce qu'il est en train de jouer. Il dit « Oh, rien, mais peut-être quelque chose pourra-t-il en sortir ?» Et pour la surprendre et pour l'amuser sans doute, il se lance dans une espèce d'improvisation en cherchant à caricaturer un certain nombre des proches du couple. « Voici Powell au piano », dit-il, et il imite la manière de cet ami qui est membre du même trio que lui, cette façon qu'il a de se laisser emporter par la musique qu'il joue. Et puis ensuite, c'est au tour du violoncelliste Billy Baker, personnage bruyant, un petit peu Matamor, etc., etc. Il va y avoir 14 variations qu'Elgar va composer sur cette simple idée, un portrait musical d'une poignée de ses connaissances. Le compositeur ne s'en cache pas, il dédie expressément la partition à ses amis qui s'y trouvent portraiturés. Et dans une lettre à son éditeur, une lettre d'octobre 98, il décrit ainsi sa nouvelle œuvre. J'ai ébauché une série de variations sur un thème original. J'y ai pris beaucoup de plaisir car j'ai donné à chacune d'entre elles le nom d'un de mes amis. Les variations Enigma vont être créées à Londres en 99. Le public réserve un triomphe à cette création, la critique aussi d'ailleurs. Et évidemment, chacun cherche qui se cache derrière les initiales que le compositeur a placées en exergue de chaque variation. La gloire lui vaut de nouveaux camarades, donc un certain nombre de personnalités, y compris des gens de la finance. Elgar est accueilli à ce moment-là dans des milieux beaucoup plus fermés. Il va se mêler à la vie mondaine londonienne. Il est difficile pour lui néanmoins d'oublier ses origines modestes, et plus difficile encore pour ceux qui le reçoivent. Parmi ces nouvelles relations, un financier qui s'appelle Schuster, qui a l'habitude de recevoir tout ce qu'il y a de brillant dans le monde des arts, dans une très belle demeure qui s'appelle Maidenhead, au bord de la Tamise. Là notamment, on trouve Gabriel Fauré, par exemple. Edward Elgar va faire la connaissance de Richard Strauss, qui est un de ses fervents admirateurs et qui lève son verre au succès et à la prospérité du premier compositeur moderne anglais. Ce qui permet peut-être d'effacer un petit peu l'injuste saillie de Wagner. Vous savez, Wagner parlait de l'Angleterre comme d'un pays sans musique, Das Land ohne Musik. Faut dire que depuis Purcell, rares avaient été les compositeurs anglais à connaître un rayonnement, une audience internationale.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il est donc né en juin 1857 à Broadheath, dans l'ouest de l'Angleterre, Edward Elgar. Le village où il naît n'est pas loin de Worcester. Il est le quatrième enfant et le second fils de William Elgar, qui est un simple accordeur de piano, qui est aussi marchand de musique et qui est, à ses heures possibles, titulaire de l'orgue de Saint-George, une église catholique. Sa mère, Anne, est une personne cultivée qui aime la lecture. La famille s'installe donc à Worcester, juste au-dessus d'un magasin de musique. À ce moment-là, Edward a 3 ans seulement. C'est la seule maison qu'il ait vraiment connue étant enfant. Il ne reçoit d'ailleurs pas de formation musicale en dehors du milieu familial. Il apprend à jouer au piano, bien sûr, parce que c'est comme ça dans la famille. Et puis, Surtout, il va se mettre au violon, mais disons les choses, il est quasiment autodidacte. Il a l'espoir de se rendre à Leipzig, qui à l'époque est considéré comme le plus grand centre musical d'Europe. C'est en tout cas comme ça que les Anglais voient les choses. Seulement, sa famille n'a pas les moyens de lui offrir un tel voyage. Il faut déjà qu'il termine sa scolarité. Ses parents n'ont pas une haute idée de ses talents musicaux, paradoxalement. Et il lui propose d'intégrer plutôt l'étude d'un avoué. Édouard va réussir à convaincre quand même ses parents, au bout d'un an, que c'est pas du tout ce à quoi il rêvait, et donc, avec leur consentement, il quitte cet emploi. Quand même, il a acquis assez d'expérience pour gérer les comptes de l'entreprise familiale. Il va puiser tout à loisir dans la réserve de partitions, se mettre à donner des leçons de violon, et peu à peu, il se forge à la fois une réputation de professeur, mais aussi une réputation d'instrumentiste, d'orchestrateur, de compositeur. Il va aller passer 12 jours à Londres en 1877 et là, il prend quelques leçons avec le chef du New Philharmonic Orchestra qui s'appelle Adolf Politzer, qui est assez impressionné, à vrai dire, par les dons du jeune homme, tellement qu'il lui propose de l'aider à devenir un virtuose, sauf que c'est la grande époque, vous savez, il y a des virtuoses qui font, qui mettent l'Europe à l'époque en émoi. Mais Elgar décline l'offre, il est persuadé que il n'a pas, lui, l'étoffe d'un virtuose. 2 ans plus tard, il dirigera un club d'amateurs de musique, il tient aussi la partie de basson dans un quintet d'instruments à vent. Bref, de 79 à 84, il s'occupe de l'ensemble musical de l'asile de Powick, un asile d'aliénés. Le directeur de cet établissement est un homme tout à fait moderne qui utilise la musique comme thérapie. Et ça, ça va consacrer Elgar comme précurseur de la musicothérapie. À quoi ça tient, vous voyez? Et puis, petit à petit, le jeune musicien va se tailler une réputation locale, mais c'est pas assez, évidemment. Une bonne partie de l'argent qu'il gagne, il le dépense pour assister au grand concert organisé à Londres par August Manns, à l'époque musicien allemand, directeur musical du Crystal Palace, hein, cette espèce de palais de verre qui avait été construit, vous savez, pour l'exposition universelle de 1851 dans Hyde Park, et qu'on utilise pour comme salle de concert notamment. On y donne des œuvres de qualité à des tarifs qui sont élevés. L'idée, c'est, à des tarifs qui sont peu élevés, je veux dire, l'idée, c'est de mettre la musique à la portée du public, du grand public. Et c'est là que va basculer le destin de notre Édouard. Adolf Politzer envoie à August Manns la partition de Sevillana. C'est une des œuvres qu'a composé le jeune homme. Manns est conquis. Il inscrit pour la première fois cette œuvre au programme d'un de ses concerts en juillet 1884. Autant dire que c'est tout nouveau pour Elgar qui jusqu'alors n'a composé que de la musique de salon. En 84, un événement majeur, The Three Choirs Festival, coïncide avec le 800e anniversaire de la cathédrale de Worcester. Qui est invité à participer aux célébrations, à diriger son Stabat Mater, Dvorak, en personne? Elgar fait partie de l'orchestre, il est complètement émerveillé, bien entendu, et l'année suivante, il a la satisfaction de voir pour la première fois quelques-unes de ses pièces pour violon publiées par un éditeur, et pas par n'importe qui, par Schott. Elgar est nommé au poste d'organiste de l'église Saint-Georges, que son père avait laissé vacant. Bon, cette fois, on doit pouvoir dire qu'il est pleinement, entièrement et avec beaucoup d'enthousiasme, musicien.
Thank you.
C'est notre Gauthier Capuçon à nous qui interprétait avec l'orchestre de chambre de Paris sous la direction de Douglas Boyd cet arrangement pour violoncelle du Salut d'amour.
Vous écoutez Radio Classique.
Donc Elgar continue à donner ses leçons de violon. Parmi ses élèves, il y a la fille unique d'un général de l'armée des Indes. Elle s'appelle Caroline Alice Roberts. Alice a 38 ans, c'est une femme cultivée qui chante dans une chorale qui va en 1889 épouser Elgar. Et le couple s'installe à Londres. Elgar peut consacrer un peu plus de temps à la composition parce que tout simplement son épouse a les moyens. Il remporte d'ailleurs son premier succès d'édition avec une petite pièce pour piano qui s'appelle Liebesgruß, que la maison Schott va publier sous le titre de Salut d'amour, et c'est ce que vous venez d'entendre. August Manns, bien sûr, s'empresse d'inscrire ça, comme la suite en ré, une autre pièce, au programme des concerts du Crystal Palace, et ça marche. Et la vie du couple, en mars 90, est éclairée par la naissance de leur enfant unique, Caris. La famille décide à ce moment-là de quitter Londres. Bah oui, c'est pas un endroit pour élever un enfant. Et puis, la santé du compositeur est fragile, en plus. Le couple va subir, en plus, l'hostilité larvée de tout le milieu anglican londonien contre la foi catholique d'Elgar. Bref, les Elgar vont aller s'installer en juin 91 à Malvern. Elgar reprend son existence de prof de violon à ce moment-là. Il n'est pas très enthousiaste, disons les choses. Mais ça va lui permettre ce retour dans une ville de taille humaine. Ça va être assez fructueux. En Angleterre, la vie musicale se situe dans les grands festivals, vous savez, à Leeds, à Birmingham, à Sheffield, ainsi que dans les villes où officient les Three Choirs, à savoir Worcester, Gloucester et Hereford. Et à partir des années 90, Elgar va composer des cantates et il va connaître un vrai succès. Et parmi ses amis, un Allemand originaire de Düsseldorf qui s'est établi en Angleterre où il a trouvé un emploi dans une maison d'édition de musique qui s'appelait Novello. Le bonhomme en question, c'est August Geiger, on va l'appeler à la française. Il est tout à fait convaincu du talent d'Elgar et il va commencer avec lui un échange épistolaire qui nous permet d'en savoir plus, évidemment, sur la vie du compositeur. Qui va changer de demeure? Il va s'installer à Malvern Wells dans une maison qui s'appelle Cragley. Et il va rencontrer beaucoup de succès maintenant, notamment avec son ouverture Cocaine, qui témoigne d'une espèce de ferveur patriotique. On est maintenant sous le règne d'Édouard VII, qui a succédé à la reine Victoria. Le compositeur paie son tribut au genre avec une série de cinq marches qui, évidemment, va faire sa gloire universelle. Pomp and Circumstance. La première, c'est Land of Hope and Glory, qui renferme dans sa section médiane toute une mélodie qui peut en plus être chantée, qui devient en quelque sorte un hymne. C'est même, disons-le, le second hymne national. Il y a une chose qu'il faut avoir vécue dans sa vie, c'est une soirée des BBC Proms, vous savez, au Royal Albert Long Hall, où tout le public se lève pour chanter d'une seule voix, d'un seul cœur, cet air devenu maintenant célèbre. Le chœur, la société chorale, l'orchestre symphonique de la BBC sous la direction de Sir Colin Davis interprétaient bien sûr cette première marche du Pomp and Circumstance d'Edouard Elgar. C'était au Proms de Londres, c'était en 1969, mais c'est quasiment la même chose tous les ans.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il est en train de devenir une personnalité tout à fait assise maintenant, évidemment, avec la célébrité de Césaire. Elgar accepte la chaire de musique de l'université de Birmingham. Il est docteur honoris causa d'Oxford, mais aussi de Yale. D'ailleurs, il sera citoyen d'honneur de Worcester. D'ailleurs, il y a une marche solennelle qui est organisée le long de High Street dans Worcester. Et à ce moment-là, on le voit qui s'arrête un instant pour se découvrir devant son père. Et oui, son père est là à la fenêtre, il est trop fatigué maintenant, trop âgé pour marcher à côté de son fils, mais il est là et son fils le salue, c'est une sorte de consécration évidemment. Avec sa femme, il va aller passer comme chaque hiver quelques mois en Italie, et le fait de changer de climat, d'environnement pour lui, c'est le stimulant majeur. Quand il rentre à Place Gwynne, il se met à la tâche et va donner la forme définitive à toutes les idées qu'il a ébauchées au cours de son voyage. C'est comme ça que crée Elgar. Alors, ça n'empêche pas d'avoir d'autres occupations. C'est un Anglais, hein, jusqu'au bout des ongles. Il est passionné d'ornithologie, évidemment. Il observe les oiseaux. Passionné de chimie, également. Il parvient à créer une sorte de produit qui permet de synthétiser, enfin de méthode qui permet de synthétiser le sulfure d'hydrogène. Et pour ce faire, il transforme en laboratoire un appentis qu'il appelle son arche et dans laquelle il se livre à ses expériences. Parfois ça donne des explosions ou des bruits bizarres. Il se prend d'enthousiasme aussi pour le golf, quand je vous dis qu'il est anglais. La meilleure forme d'exercice pour un homme de culture, car il n'y a aucun risque d'accident, dit-il. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une élongation. Sa femme l'encourage à essayer également le cyclisme, activité à laquelle il adhère sans se faire trop prier. Il va acheter son premier vélo qu'il appelle Mr. Phoebus. Elgar est aussi un spectateur passionné de football. Il va composer d'ailleurs des chants pour ça. Bref, vous voyez qu'il est un peu dispersé, disons les choses. C'est pas très propice à la création musicale, ça, vous me direz. Et pourtant, il va créer là une des œuvres les plus importantes, sa première symphonie. Hans Richter considère cette œuvre comme la plus grande symphonie des temps modernes. Quant au chef Nikisch, Arthur Nikisch, il la surnomme la cinquième symphonie de Brahms. On en donnera plus de 100 exécutions en une seule année, vous imaginez ça. Alors, il écrit aussi pour le violon. Ça lui vaut l'amitié du soliste et premier violon du London Symphony Orchestra, Reed Billy, comme on l'appelle, qui, à plusieurs reprises, se rend chez les Elgar pour communiquer un certain nombre de renseignements techniques à Sir Edward. « Lorsque j'arrivais, écrit-il, je trouvais Sir Edward se promenant dans toutes les pièces avec des feuilles libres couvertes de musique qu'il disposait un peu partout. Il en avait déjà épinglé certaines sur le dos des chaises et fixé d'autres sur le manteau de la cheminée pour me permettre de les déchiffrer facilement. » Elgar dirige lui-même à Londres sa seconde symphonie, mais cette œuvre s'accorde plus à l'atmosphère de deuil qui a prévalu après la mort d'Édouard VII l'année précédente qu'au fait du couronnement de George V, il faut bien le dire. Alors, on est à la période où il devient une espèce de gloire consacrée. On lui décerne l'ordre du mérite. Il s'installe dans une maison qui maintenant est absolument magnifique, qui s'appelle la Severn House à Hampstead. Ça se visite, ça d'ailleurs. Le couple va se lancer dans une vie qui devient, disons-le, relativement mondaine maintenant.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et Elgar approche de la soixantaine. Il lui semble que son pays, cet immense empire britannique qu'il a tant aimé et qu'il a tant célébré, est un peu mort avec la Première Guerre mondiale. On peut pas lui donner entièrement tort. L'Angleterre d'après-guerre n'est plus la sienne. Il s'y sent mal à l'aise et inutile, dit-il. Il va achever en 1919 le concerto pour violoncelle. Ce sera sa dernière grande œuvre, c'est son Chant du Cygne. Ce concerto, désormais, fait partie du répertoire des violoncellistes après avoir été popularisé par une interprétation absolument bouleversante, celle de Jacqueline Dupré. Elgar va faire en 24 il devient un musicien plus qu'officiel puisqu'on lui confie, il est maître de la musique du roi. Bon, ça c'est un titre. La vérité, c'est qu'il passe les 15 dernières années de sa vie dans un silence à peu près total. Il va surtout s'employer à faire rayonner son œuvre en tant que chef à travers des enregistrements, parce qu'il est passionné par ça, par cette technologie de l'enregistrement, par le disque. Il va accompagner le tout jeune Yehudi Menuhin dans son concerto pour violon. Le compositeur anglais le plus célèbre de tous les temps va finir par mourir en 1934. Triste année 1934 pour la musique anglaise puisque c'est également l'année de la disparition de Frédéric Delius et de Gustav Holst.
Vous écoutez Radio Classique.
C'est Jérémy Bigori qui nous a emmenés sur les pas de Sir Edward ce matin. Un grand merci à lui et bonjour à notre Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck. Ce 1er décembre, nous sommes dans des tons...
Autonomes
en un seul mot, je précise, parce que... Dites-moi, dans cette évocation de Elgar, qui est un compositeur que j'aime, et on remercie encore Jérémy Bigori, et votre narration, vous évoquez la rencontre avec Yehudi Menuhin dans un livre que j'ai commis Notre légère bise que vous avez, dont vous avez signé la préface. Je vous en remercie encore. Je raconte cette histoire où Yehudi Menuhin avait travaillé ce concerto qu'il allait jouer avec le maître et il avait tellement peur face au compositeur qu'il est arrivé et le compositeur lui a dit, écoutons. Alors il a joué la première page et à la fin, Elgar lui a dit, c'est très bien. On se voit demain, ça va être parfait. Excusez-moi, jeune homme, mais je dois aller aux courses. Il adorait les courses de chevaux.
Oui, non, mais il était très mondain.
Et le jour même, il a écrit à Bernard Shaw en disant « J'ai rencontré ce jeune Yehudi Menuhin, un garçon exceptionnel. » Le concerto est magnifique. Merci pour cette narration. Cet après-midi, le chantage du chevalier d'Eon.
Oui, mais on est à Londres, du coup. On ne changera pas de ville ni de pays.
On se pose toujours la question concernant le chevalier.
S'il était un homme ou une femme,
oui.
Je pense qu'on ne se pose plus la question, mais qu'il était particulièrement doué pour se faire passer pour une femme.
C'est très bien, merci. 14h cet après-midi, un bon week-end à vous. Je vous rappelle, à vous, chers auditeurs et auditrices qui êtes à Paris ou qui viendraient à Paris, que Franck est au Théâtre Antoine du mercredi au samedi jusqu'à la fin du mois de décembre. Et c'est à 19h avec un spectacle.
Je crois que je vais bientôt avoir votre visite.
Il me semble.
Ce que j'ai entendu dire demain soir.
Demain à 19h, où je viendrai vers 18h30. Et ce spectacle s'appelle Courageuse et consacré à des femmes assez exceptionnelles que Franck vous raconte sur scène avec, rappelons-le, Garance Bokobza à vos côtés.
Elle est magnifique, vous allez voir ça.
À demain.
À demain.
Oui, à demain pour nous deux.
Oui.